Yann Morvan, l'artiste. Par Jean-Louis Vinet. Troisième partie. Alors, on va passer à ce que j'appelle moi la guerre vide, les champs de bataille, mais c'est pas si vide que ça. Donc, après la guerre dont on a parlé, la guerre vive qui sévit, on va passer au nom glorieux, ou pas d'ailleurs glorieux, hein, aux histoires glorieuses ou pas, à l'infiniment sale, horrible, désespérant, pour les hommes de rang en tout cas, c'est triste. On apprend à l'école les beaux noms, les dates, les lieux. Mais bon, ce qui s'y passe, c'est comment on vit ces moments-là, comment les gens de l'époque vivaient ces moments-là. On n'en parle pas. C'est les champs de bataille de l'humanité que tu as photographiés. Ces 10 ans de travail, c'est une longue quête. Ça donne la vie à un livre exceptionnel. C'est 660 pages, 450 photos, 250 lieux, 35 pays traversés. C'est une histoire, entre guillemets, totalement folle. Pourquoi tu as traité ce sujet, les champs de bataille ?
Au départ, l'idée vient du débarquement de juin 1944. On est en 2004, donc on est au 60e anniversaire. Donc, à l'époque, j'essayais de travailler avec l'agence Sigma. Et je vais voir toujours le rédacteur en chef, Claude Tiercé. Je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de faire une histoire sur la commémoration du 6 juin 1944, je vais aller faire des photos à la chambre grand format. J'étais passé à la chambre 20-25. Depuis à peine maintenant, j'avais acheté ça à Los Angeles, une chambre. Et je vais dire, écoute, je vais faire des photos des lieux du débarquement pour commémorer le 60e anniversaire, donc en juin. Donc je pars en février et mars avec ma chambre et je fais une vingtaine de clichés sur les lieux de... Bah, Omaha Beach, Utah Beach, un peu tout le parcours. Et je reviens à Paris avec ce travail, je le monte chez Sigma, il l'édite, évidemment, ils vendent rien, ça intéresse personne. Bon. Et puis j'avais travaillé donc avec une chambre à 25, avec de l'ectachrome 100, et je regarde les images mis bout à bout, et je me dis, il se passe quelque chose, bon, la presse n'en veut pas. Ils ont publié pas mal de photos. Match avait fait des photos un peu comme fait... comment il s'appelle un peu avec un appareil stéréoscopique. Enfin, il y a tout un... Bon, des choses un peu avec des couchers de soleil. Enfin, bon, bref, truc très, très illustratif. Mais mes photos, c'était des photos assez documentaires. Il y a des photos documentaires, oui. Et je les regarde, j'ai mes bout à bout, et je me dis, il y a une histoire là, il se passe quelque chose. Et je décide de faire les champs de bataille de France, en me disant, bah, je vais continuer, je vais essayer de faire ça. Au bout d'un an, et demi, je rencontre Agnès de Gouvien-Saint-Cyr, qui à l'époque, est directrice générale de la photographie. Et je lui dis, écoutez, madame, avec qui j'avais déjà travaillé, que je connaissais bien, et donc je lui dis, Madame de Gouvion-Saint-Cyr, qu'est-ce que vous pensez de mon travail sur les champs de bataille de France ? Et elle me dit, ça n'a strictement aucun intérêt, les photos ne valent rien, laissez tomber. Donc ça me titille, c'est un peu comme la ligne verte dans les années 80, je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser. J'appelle Géo, je me dis, bon, bah, j'essaye de refaire le même parcours hein, que, que 30 ans auparavant, 20 ans auparavant. Et j'appelle Géo, j'envoie les photos, et là, j'ai Sylvie Rebaud, rédactrice en chef, qui me dit « Mais Yann, je croyais que tu étais retraité en Bretagne. » On est en 2005. Hein. Je dis « Non, je ne suis pas retraité en Bretagne, je continue à travailler. » Donc ça encore, ça me titille d'abord pour deux choses. D'abord, premièrement, la dimension esthétique avec de Gouvion-Saint-Cyr, que j'estimais beaucoup. Et je pensais qu'elle s'était trompée. Et deuxièmement, la dimension sociale avec la directrice de Géo qui pense que je suis à la retraite. Donc je me dis, il faut que tu fasses quelque chose. Donc tu vas continuer à faire des champs de bataille. Donc je me débrouille plus ou moins pour continuer un peu en Europe, des champs de bataille à en faire, à accumuler. Et je présente le projet au Centre National d'Art Plastique, au CNAP, en disant, voilà, j'ai fait l'Europe, j'aimerais bien faire les champs de bataille du Pacifique. Et là, je travaille beaucoup l'histoire en disant, voilà, il faut aller à Guadalcanal, il faut aller à Tarawa, il faut aller à Guam, il faut raconter tout ça, parce que personne ne le fait, personne ne connaît, on ne sait pas à quoi ça ressemble.
On connaît le nom, c'est tout.
On connaît le nom, mais à quoi c'est. Et puis j'ai une bourse, il me file 10 000 euros. Et donc avec ça, je peux monter l'affaire sur un an, un mois et demi, et je pars faire les champs de bataille du Pacifique. Donc quand je reviens, j'ai la France, j'ai un bout d'Europe, j'ai pas mal d'Europe, j'ai le Pacifique. Le Pacifique, c'est un plus. C'est quand même les Américains ont laissé tout un tas de matériel sur le terrain. Et donc les photos sont assez d'abord, bon, bah, y a cette mer bleue, ce ciel bleu, le sable couleur d'or, et dessus du matériel laissé, des tanks, des chars, etc. Et là, on voit que la guerre est toujours omniprésente, c'est-à-dire c'est... Et c'est très violent et virulent dans le Pacifique, parce que c'est là que, bon, je reprends le slogan, déjà dit, déjà fait, déjà parlé, la nature reprend ses droits. Mais c'est vrai qu'elle reprend ses droits, parce que j'ai des chars, par exemple, qui sont complètement dévorés par les banyanes, c'est-à-dire les arbres poussent autour, ils deviennent, objets des arbres, un peu comme... Et j'ai un corpus d'images. À l'époque, pour gagner ma vie, entre autres, je faisais des photos de vernissage pour Jean-Jacques Naudet, aujourd'hui qui fait l'œil de la photographie. Et Jean-Jacques Naudet connaissait très bien Vera Hoffmann. Vera Hoffmann voulait monter une maison d'édition, elle avait commencé, qui s'appelait Photosynthèse. Et Jean-Jacques me dit que ça pourrait être un projet pour elle. Et il me fait rencontrer Vera Hoffmann et Marco Zappone, à l'époque, qui étaient... directeur de la maison d'édition. Je leur montre la France et surtout le Pacifique. Ce qui les détermine à dire, écoute, ça nous intéresse, on va y aller. Un an après, il me contacte, il me dit, c'est bon, on fait champ de bataille avec toi. Et là, on doit être en 2011 à peu près, et pendant 4 ans, je ne fais que ça, que ça, que ça, que ça.
Quand tu dis que tu sais que tu fais que ça, je t'arrête 2 secondes, mais... Tu l'as dit très très vite, mais c'est encore un travail à la chambre. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, il y a des voyages, faut aller sur place.
Ah oui, c'est monter à chaque fois une opération, que ce soit en Grèce, que ce soit...
C'est une expédition.
C'est une expédition, oui, tout à fait. Oui. C'est une expédition en Chine, par exemple. J'ai fait 35 pays à peu près. Et effectivement, c'est un vrai bonheur. En même temps, pendant que je fais ça, je ne travaille pas. Donc je me retrouve dans une situation financière en 2013-2014, avec des huissiers chez moi, enfin bon, c'est qui est pas terminé encore d'ailleurs. Je continue à payer mes champs de bataille. Bon, ça va mieux, mais il en reste encore quelques.
Ouais, il fallait le faire.
quelques dettes. Et donc le livre sort en 2015, un énorme livre. Enfin, il y a 3 livres à vrai dire. Il y en a un qui fait. Ouais. Moi, je le compte en kilos. Il y a un 5,5 kg. Il y a un 8 kilos, il y a un 12 kilos, je te montrerai le 12 kilos tout à l'heure, ça vaut son... Tu l'as jamais vu, non? Je te montrerai tout à l'heure, il est impossible qu'il ne s'est absolument pas vendu, d'ailleurs.
J'ai vu le 8.
Il coûte 800 euros, et puis même si on l'achète, il y a des gens qui ont essayé de l'acheter, il est plus en vente. Cette opération des champs de bataille, quelque part qui a été à la fois une grande joie et une grande souffrance, grande joie pour le... je suis rentré dans l'histoire. Hein. J'étais à la fois, j'étais en Libye.
Mais c'est presque un travail scientifique.
Oui, c'est un travail. Oui, vraiment scientifique. J'ai écrit tous les textes du livre. Enfin bon, le musée des Invalides m'a acheté 38 images en cibachrome de 120 qu'ils exposent régulièrement, qu'ils exposeront jusqu'à la nuit des temps, si Dieu le veut. Et ça m'a permis de passer. Le cap de photographe de presse à photographe auteur. Parce que à ce moment-là, le corpus d'images fait à la chambre 20-25 de paysage me change de statut. C'est-à-dire je deviens, on va dire, photographe d'art contemporain, entre guillemets, hein, tout ça.
Ouais.
Et ça va me permettre, pendant les années qui suivent, de proposer des sujets, de revisiter mes archives. Parce qu'à ce moment-là, en tant que photographe, artiste contemporain, je prends plus de valeur, plus de poids. Donc les Bobby Sands, les années de fer, le Liban va sortir à la fois. Tous mes livres vont sortir. Et ça a été le détonateur. C'est-à-dire que je crois qu'il s'est passé quelque chose en se disant, ce type-là est bankable, il est capable pendant 10 ans de faire un truc et à la fin il est fauché, il est laminé. Donc on peut éventuellement faire quelque chose avec lui.
Oui, mais aujourd'hui, le livre « Champ de bataille », il fait trace. Il n'y en a pas 100 000 bouquins comme ça. Parce que,
il y a une chose
que je voudrais savoir, c'est que quand tu décides, voilà, prenons le pont d'Arcole.
Ouais.
Oui.
J'ai fait le pont d'Arcole.
Faut le voir, le pont d'Arcole. Mais le pont d'Arcole, quand tu y vas, avec ton matériel, tu y vas un jour, tu y vas la veille pour voir quelle est la meilleure lumière, quel est le meilleur temps, tu fais ça le matin, tu fais le soir, tu fais le midi parce que tu es là à ce moment-là et que c'est à ce moment-là que tu le fais.
Alors,
comment tu fais ?
Globalement, j'essaye de prendre la pire lumière. Alors, bon, évidemment, alors, j'ai des préceptes de base. Le précepte de base, c'est surtout pas le matin tôt et le soir tard. Enfin, quand il y a des belles lumières, pour pas faire de la belle photo. J'y vais en général vers 11, entre 11h et 13h, parce que là, la lumière est crue, et donc je suis sûr d'avoir la pire lumière. C'est la guerre. On est sur un champ de bataille. On n'est pas un dépliant touristique.
Mais tes points de vue sont ceux, entre guillemets, presque du soldat, en fait.
Alors, d'abord, j'étudie la bataille. Donc, je sais exactement où ça se passe, etc. Donc, la base du cadrage, de la composition, c'est donc quel camp je me situe. Hein. Est-ce que c'est les Gaulois ou est-ce que c'est les Romains? Donc, à partir de là, alors je lis énormément. Hein, j'ai lu des bouquins, mais pas par centaines sur les champs de bataille. Et donc, alors, bon, il y a des sources qui manquent. Évidemment, la première bataille que j'ai faite, c'est Jéricho, donc en Palestine. Donc là, je prends la Bible, évidemment. Donc, je relis la Bible. Mais ce n'est pas très explicite quant à... Alors, je vais à Jéricho, et là, effectivement, il y a des strates comme à Troyes. Il y a 3-7 que j'ai photographiés. On pense que la guerre de Troyes s'est passée là. Ça, c'est en Grèce. Donc, je me documente avant. Je lis tout ce qu'il est possible de lire sur le sujet. Mais évidemment, entre la guerre de Troyes et Jéricho, ce n'est pas évident. Donc, je me mets derrière les murailles, quand muraille il y a. En attendant, à Troyes, par exemple, j'ai la photo de la guerre de Troyes, je suis derrière les murailles en pensant que les Grecs vont attaquer. Donc on voit le... Voilà. Donc à chaque fois, j'essaye d'imaginer où serait le soldat et je change de camp. Hein. Je n'ai pas un camp particulier. J'aurais pu être du côté des Grecs et regarder les murs de Troyes, les murailles de Troyes, de l'autre côté. Mais bon, je me mets du côté des Troyens. Pourquoi ? Parce que l'assiégé est plus intéressant que l'assiégeant, de toute manière, dans ce cas-là. Après...
Quand tu fais la campagne de Russie ?
À la campagne de Russie, j'ai Volgograd, enfin, c'est-à-dire Stalingrad. Donc là, je lis... dans ma chambre, j'ai une bibliothèque, j'ai des milliers d'ouvrages d'histoire, etc. Donc je lis les mémoires du général Yukov, enfin, j'ai tout ça, etc. Donc je fais évidemment la bataille des silos à grains de riz, où je retourne, la bataille de... Il y a une maison qui est complètement détruite, parce que c'est la maison où ils se sont battus pendant 3 mois. Bon, j'ai les endroits clés de Volgograd. Bon, par exemple.
Mais tu y vas à quelle saison ?
Non, ça m'est complètement égal. J'y vais pas forcément au moment où la bataille s'est passée. Hein. J'ai la bataille du Don. J'ai fait pas mal de batailles en Russie. J'ai adoré me promener en Russie. Les gens étaient charmants. Ils m'ont tous accueilli gentiment quand j'aurais expliqué mon projet. Après, il y a des recherches, par exemple. Il y a une bataille que je voulais absolument faire. C'est la bataille de Leuctre. La bataille de Leuctre en Grèce. Pourquoi la bataille de Leuctre ? Parce que la bataille de Leuctre, c'est Guderian. Hein, c'est la droite refusée, c'est une bataille, c'est Napoléon au pont d'Arcole, justement. Parce que Napoléon, on dit Napoléon, mais Napoléon c'est quoi ? Napoléon c'est un boutonneux corse qui arrive à Paris, qui est à l'école militaire. Et l'école militaire c'est à l'emplacement du Louvre ici. Et en face, alors pour ceux qui liront mon livre Pigalle très prochainement, il faut dire que les jardins du Louvre, enfin en face là, c'est les bordels de Paris, c'est là où il y a toutes les prostituées, etc., etc. Et tous ces copains qui sont officiers artilleurs vont voir les filles plutôt que de travailler à l'école du soir de l'académie militaire qui se trouve donc au Louvre. Et Napoléon, il étudie les textes anciens. Et il tombe sur ce qu'on appelle la droite refusée. C'est-à-dire la bataille de Leuctre, hein, des Pimondas, là, incapable de prononcer le nom. Et il va appliquer ça à Arcole. En gros, la droite refusée, c'est quoi ? C'est que tu mets tes meilleures troupes à gauche, alors que ton ennemi pense que c'est à droite. Donc il met mais tu mets, si tu veux, t'essayes de tenir la gauche pendant que la droite contourne l'ennemi. Et Napoléon a fait ça à Arcole, il a vaincu, et Guderian a fait la même chose pendant la campagne de 40, si tu veux, il a fait ce qu'on appelle, il est passé par les Ardennes, alors que les Français pensaient qu'il passerait par la Belgique, ça s'appelle la droite refusée, mais ça c'est que des théories qu'il fallait connaître, mais il fallait lire les textes anciens, etc. Donc finalement c'est les matheux, les scientifiques, enfin ceux qui travaillaient sur l'histoire, etc., qui connaissaient la stratégie et la technique. Donc je voulais absolument faire l'octre pour les raisons qu'on vient d'évoquer, puisque j'avais lu Napoléon, j'avais lu Guderian, etc., etc. Donc j'arrive à l'octre, et à l'octre c'est quoi? Ça s'appelle l'ectra en grec, alors franchement, la bataille de l'Octre, à l'Ectra, en Crète, ils savent même pas que ça existe. Et alors, je fais quoi? Ben, je suis là, j'y étais trois fois. À chaque fois, j'y tourne. Alors, évidemment, ils ne parlent pas l'anglais. Hein, tout est écrit en caractère cyrillique. Là, enfin, le... Et je trouve finalement un prof, et je lui dis, mais attendez, qui parle anglais, qui baragouine l'anglais. Et je lui dis, mais attendez, là, je viens faire un truc. Là, je prépare un livre sur les champs de bataille, tatati, tatata. Et à l'époque, j'étais pas encore, j'avais pas encore le Vera Hoffman Agreement. Donc, je faisais avec mes fonds propres. Donc, je pouvais pas trop traîner non plus. Et je lui dis, mais il s'est passé quoi là? C'est la bataille de l'Octre. Là, il me regarde et il me dit, attendez, on a retrouvé des armures et des crânes dans un champ là-bas, etc. Ah, je lui demande où. Et puis, il m'amène, il me dit, oui, c'est là. Et ça correspond tout à fait aux descriptions de Thucydide, etc., qui parlent de la bataille de l'Octre avec les Thébains qui étaient sur le haut, les Spartiates en bas, etc., etc. C'était Thèbes contre Spartin. Et je me dis, bah, bon, de toute façon, ils ont trouvé des armures qui est là, je suis en hauteur, etc. Je relis les propos donc, de Thucydide qui parle de ça, et je me dis, bah, je vais faire la photo d'ici. Donc ça s'est passé comme ça. Bon, ça c'est pour les temps reculés, hein, c'est pour l'Antiquité. Pour les batailles contemporaines, c'est pas un problème. Mais ça a été un vrai boulot formidable hein, de recherche.
T'as été aussi aux Amériques sur le Far West et autres.
J'ai refait un truc, alors ça, j'ai fait un truc dont je suis fier, j'ai fait l'invasion européenne dans le monde amérindien, quoi, de l'est à l'ouest. J'ai quasiment les batailles les plus importantes de l'est à l'ouest, ce que aucun Américain n'a fait. Et ça, j'ai fait vraiment tout, mais année par année, hein, en terminant par le Wounded Knee, hein, le massacre de Wounded Knee en 1884, etc., où là, l'armée américaine extermine les derniers survivants Sioux à coups de mitraillette et tout. Et tout ça est fascinant, tout ça est raconté. J'aurais pensé que le livre, mais le livre est énorme, je te l'amènerai, c'est pas concevable, quoi. Il aurait fallu en faire un digest, mais est-ce que les gens s'intéressent à ça et à l'histoire? Ça fait rien. Le livre existe, je pense qu'il y a une version américaine qui s'est très bien vendue, mieux que la française, parce que justement, les Américains, quelque part, ils s'intéressent plus à leur histoire que nous à la leur, ni nous à la nôtre, hein, parce que je raconte quand même la bataille de Castillon avec la cavalerie bretonne qui défait les Anglois.
Quand tu parles de ces traces, de ces paysages, qui sont forcément remodelés.
Pas toujours.
C'est ce que je veux dire. Quand tu prends les guerres contemporaines, 14-18, si tu vas à Verdun...
Ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. T'as les trous,
Mais même à l'Octre, hein, je pense que ça n'a pas bougé. Hein. Non, mais c'est très rare. Même, par exemple, Scipion l'Africain, les batailles avec les Carthaginois, ça n'a pas bougé. Hein. T'as des endroits insensés. Hein. C'est très, très rare.
C'est exceptionnel. À l'école, on apprend les dates et les victoires. Marignan 1515.
Ah, j'ai fait Marignan.
Voilà, forcément.
Ah bah forcément.
Mais par exemple, est-ce que tu t'intéressais ou tu as creusé la vie de ces soldats, de ceux qui mettaient campagne, de ceux qui allaient, comment ils marchent, comment ils vivent, comment ils s'habillent, ils bouffent, comment ils...
Bien sûr, mais tu me parles de Marignan 1515. Mais je vais te dire, il y a un livre qui est fondamental à lire. Si tu aimes l'histoire et t'aimes ça, c'est Jean Giono qui a écrit Le désastre de Pavie, qui est un des plus beaux livres d'histoire et qui raconte justement au jour le jour les gens qui étaient avec François Ier après Marignan, donc, et qui sont à Pavie, qui est le désastre de l'armée française, où François Ier, avec son petit ami, qui charge d'une manière stupide pour montrer qu'il est viril et guerrier, fait défaire l'armée française et qui parle au quotidien de la vie des soldats, etc. Il y a des choses formidables. Ça, c'est Giono. Giono a écrit un livre extraordinaire. C'est le plus beau livre d'histoire que j'ai lu de toute ma carrière de liseur d'histoire. Et bien sûr, évidemment, je connais Victor Hugo. Quand j'ai fait, on parle de la Russie, donc... Non, ben, j'étais à Austerlitz et je lis l'oncle de Victor Hugo qui est dans le cimetière, hein, et que Napoléon laisse les Russes attaquer pour justement contourner. Enfin, tout ça, effectivement, ce qui est intéressant, ce qui est passionnant, j'étais en 70, Zola, la débâcle où il y a l'histoire finalement des fusiliers marins qui se battent à 20 contre 1000 contre les Prussiens, que j'ai photographié d'ailleurs, une mise en abîme, qui a été exposée au musée des Invalides. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a des traces contemporaines, oui. Puis en plus, effectivement, la guerre du Pacifique, où là on raconte aujourd'hui John Ford, où on raconte au Norman Mailer, au jour le jour, la vie des soldats. Non, non, c'était fabuleux. Et j'ai toujours utilisé les romans, enfin, donc la littérature, pour choisir les batailles, tout ça. C'était à partir de là. Il y a Tacite aussi, qui raconte il était copain avec Scipion l'Africain, il raconte le siège de Carthage. C'est extraordinaire, ce qu'il raconte.
L'habit du soldat.
Les vêtements, tu veux dire.
Les vêtements, ouais. Leur raison d'être, l'habit rouge, l'habit vert.
L'habit rouge pour le sang. Les Anglais mettaient les habits rouges pour pas qu'on voie les traces de sang et pour que les mecs s'évanouissent en voyant que leur copain il a un grand trou à la place du cœur. Non. Alors il y a aussi un livre qui est extraordinaire, c'est Sandrard, c'est La main coupée. J'étais à l'endroit où il a été blessé en Belgique, si tu veux. Mais tout ça, effectivement, bon, mais c'est de la. Comment dire, c'est. Est-ce qu'on a encore des grands littératures de guerre aujourd'hui avec toutes les guerres ? Sur le Liban, j'en ai pas rencontré. J'ai pas eu de grands romans de guerre. Sur la Serbie non plus. Sur, je sais pas. Je crois que.
Là, on voit que tu fais 35 pays, mais t'as toujours ta Dirdof 20-25.
Toujours la Dirdof.
C'est-à-dire que tu la portes, c'est lourd, c'est toujours une expédition. Elle va partout.
La Bérézina, je suis tombé sur le dos. Le dépoli était en 1000 morceaux. J'ai tout recollé. C'est en Biélorussie, hein, dans mon hôtel pourri de Biélorussie. J'ai tout recollé au scotch, le miroir, etc. Pour faire. Et je faisais la mise au point sur un dixième de bout de dépoli, etc.
Et là encore, on parle de Dirdof, donc ce qui veut dire que tu as des films, ce qui veut dire que tu es entre guillemets économe. Tu fais pas 1000 films. Tu fais quoi ?
Ah, je fais one shot, ah, voilà. Pas plus. C'est one shot. Mais je tourne autour. C'est-à-dire, avant de faire one shot, je peux passer une heure ou deux, même une journée, revenir le lendemain avant de choisir le shot. Je peux pas, ça coûte trop cher.
Tu travailles au numérique avant pour tester ?
Ouais, j'ai toujours un appareil photo numérique qui me sert de Polaroid. Et je regarde le meilleur cadrage.
Pour les paysages, toujours ?
Pour les paysages. Pour les portraits, non. Oui, parce que paysage, il doit être. C'est beaucoup plus complexe qu'un personnage. Personnage, pour moi, c'est facile.
Est-ce que tu es une forme d'expert des guerres, de l'histoire des guerres ?
Non, je suis un bricoleur, je suis un amateur. Je veux dire, je ne tiendrai pas le coup devant un professionnel. Je n'ai pas la mémoire des dates. En revanche, j'ai une bonne. Je peux synthétiser. C'est-à-dire, je serais plutôt à la fois anthropologue, économiste, historien, et je peux synthétiser, je peux donner une vue d'ensemble d'une campagne, d'une guerre, pourquoi les tenants et les aboutissants. En revanche, j'ai une mémoire de soldat. Je peux te parler du moment où à Waterloo, Napoléon sonne la retraite, parce que j'étais à l'endroit où la jeune garde n'a pas essuyé le feu ennemi, tu vois. Donc je peux sortir des anecdotes, si tu veux, tu sais, de l'endroit que j'ai photographié. Mais la mémoire des noms, la mémoire des lieux, la mémoire des dates, exact, je la perds. Ma mémoire se concentre toujours sur des concepts, si tu veux. Je reste toujours conceptuel dans une bataille, etc. Je peux dire à quoi sert cette bataille, pourquoi il y a eu cette bataille et qu'est-ce que ça représente sur 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, etc. Tu vois, comme je parle de Leuctre, on a parlé de Leuctre tout à l'heure, qui est 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, et je peux expliquer pourquoi Arcole, pourquoi l'offensive des Ardennes, si tu veux. C'est juste les concepts qui m'intéressent. Après, la dimension factuelle, bon, je la connais, mais j'oublie. Si tu veux, j'élimine j'ai un cerveau limité, hein, j'ai pas une capacité formidable de mémoire. Il y a des gens qui ont une capacité de mémoire hallucinante, moi je ne l'ai pas. En revanche, j'ai une dimension conceptuelle et synthétique.
T'es déjà atypique en fait. T'es photojournaliste, mais t'es aussi photographe, t'es aussi auteur. Donc t'as des temps à concilier qui sont pas forcément conciliables, donc t'essaies de faire, on l'a vu. Est-ce que de ce temps-là, de ces 8 ans, si pas le temps d'avant, dans les autres agences. Est-ce que ce que tu as vu à ces moments-là, les douleurs, les couleurs, la peur des gens, les raisons ou les bêtises des conflits, etc., etc., est-ce que ça t'a modelé? Est-ce que ça a changé ta vie, ta manière de voir, ta manière d'être?
Je suis moins le ravi de la crèche, quoi. J'essaye de le rester. J'essaye d'avoir confiance, j'essaye d'avoir de l'empathie, j'essaye de... Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'il fallait d'abord de ne pas avoir de jugement, de respecter la dignité et le respect des autres. Ça, c'est important. Donc la presse, ce n'est pas ce qu'elle véhicule. Donc c'est pour ça que je travaille de moins en moins à la presse. Ça ne m'attire plus parce que je trouve qu'on manipule l'information en permanence. On manipule les gens, on les utilise, etc. Et moi, tous les gens que je photographie, quels qu'ils soient, sont des amis maintenant. Quand j'ai fait l'exposition Hexagone avec Éric Bouvet, Gare de Lyon, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Même un des chefs des Hells Nomads, il est venu poser à côté avec, je sais pas, il y a une photo avec la fleuriste. Je veux dire, ces gens étaient fiers et dignes. Et avec, il y a une légende qui les, je leur demande est-ce que vous êtes à chaque fois. Pour eux, c'est important. Et ça, je veux conserver ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des tas de messages de gens qui disent merci, Yann Morvan. Alors, ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux que j'ai photographiés qui ne sont pas dans l'expo. J'en ai écouté, c'est pas moi qui ai choisi, puis on va essayer de faire un livre, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, de toute façon, on les retrouvera toujours. Et donc, c'est les seuls mécontents, c'est ceux qui ne sont pas. Et là, j'ai inversé le phénomène. C'est qu'avant, les gens, ils n'étaient pas contents d'être en photo dans les journaux. Il t'attaquait, maintenant c'est plutôt le contraire, c'est que quand on ne voit pas. Et donc, et là, je pense que j'ai gagné quelque chose. C'est-à-dire que, comme à Marseille, les gens de la Castellane qui me disent Yann, ça serait bien si tu venais nous photographier. Ça veut dire que j'ai créé un climat de confiance et ça, c'est plus important. Et je peux comprendre les gens. Quand on parle, là, je parlais avec les gens des Tarterets, ils ne veulent pas de journalistes, ils ne veulent pas de photographes parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être considérés comme des animaux, comme aux zoos. Et moi, je ne fais pas ça. Ils le savent parce qu'ils ont vu des publications, parce qu'ils ont parlé à d'autres gens, etc. Et ça, effectivement, ça m'a modelé, effectivement. Et puis de voir. Je suis assez carapassonné quand même, hein. J'ai une endurance à la souffrance des autres, on va dire. Et parce que bon, j'en ai tellement vu aussi que. Alors, j'essaye de faire pour le mieux. Et moi, je me compare, alors, toute proportion gardée, parce que c'est des gens formidables, à des chirurgiens de l'extrême, à des chirurgiens de conflit que j'ai vu travailler. C'est que, bon. Lui, on va pas l'opérer parce qu'il va mourir. Lui, on l'ampute. Lui, on fait ça, etc. À un moment donné, il faut prendre des décisions, je veux dire. Et quand tu vois le type qui coupe une jambe, tu ne dis pas c'est un assassin. Tu dis, bon, bah, moi, c'est pareil. Tu me fous sur... Si demain, je suis obligé d'aller faire une famine parce que c'est important, il y a un magazine qui veut le faire, qui veut changer les choses, etc., je ne dirais pas non. Je n'aurais pas cette lâcheté de dire non, je ne touche pas à ça. J'irai le faire, mais j'irai...
Choisir.
J'aurais pas de sensibilité, parce que je serais là pour couper des jambes, pour décider qui a le droit de vie et de mort, etc. Un peu comme un chirurgien d'extrême. J'ai pas... Sinon, c'est pas possible. Je pourrais pas le faire, parce qu'on voit des choses qui sont tellement... Et j'ai pas ce côté de ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire je dors bien, je vis bien. Enfin, quand j'ai des problèmes d'insomnie, c'est des problèmes financiers, des choses comme ça. Mais pas là-dessus, parce que je suis très très clair et très net. C'est-à-dire que mes photos, elles ne peuvent pas servir à me mettre en avant, à mettre... Ça, c'est un truc qui, pour moi, on parlait de morale, et bon, je parle souvent d'Emmanuel Kant, entre la morale kantienne et l'éthique, et il faut bien faire la différence entre l'éthique et la morale. La morale, c'est quelque chose qui date, ce qui est de sociétal, c'est-à-dire qui est l'ère du temps. L'éthique, c'est quelque chose qui est personnel. Mon éthique à moi, c'est ne pas utiliser la souffrance des autres à mon profit. C'est-à-dire, tu verras jamais une expo de Yann Morvan avec des miséreux, hein. Tu verras que des choses... peut-être dérangeantes, provocatrices, etc., mais qui sont dans l'énergie, le dynamisme, et qui sont toujours positifs. Même mon Pigalle, avec les travestis, ben, tu peux pas les détester. Si tu vois le livre, je sais pas, t'as feuilleté, je veux dire, ils sont pas moches, quoi, les gens. Tu vois, ils vivent. Après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais ça, c'est les a priori. Le problème de l'a priori, moi, je peux pas prendre ça en compte, hein, l'a priori de ton éducation, de ta religion, ceci, cela. Ça, je m'en contrefiche.
Je te posais cette question tout à l'heure sur ce rapport à ce qui reste comme trace, comme stigmate de cette époque-là, parce que on parle de la photo. Tu es photographe, tu étais photojournaliste. Mais tu es photojournaliste dans une ambiance, dans une vie, dans 8 ans de vie que tu as traversé dans les conflits. Dans ces conflits, tu as photographié, mais tu vivais. Donc, tu as eu les bruits aussi, tu as eu les sons, tu as eu tout ce qu'on ne voit pas dans la photo, tout ce qu'il y a. Quand tu prends une photo et que chacun peut partager ta photo et la voir, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer ce qu'il y a autour de la photo que tu prends.
Tu sais, le son, c'est la vie et la mort. Oui. Quand tu es sur un terrain de guerre, s'il n'y a pas de bruit, tu fais gaffe.
Ben oui.
Ça veut dire qu'il y a un mec qui a un sniper dans un arbre, tu as un mec qui va tirer dessus, etc. Quand tu as du bruit, tu as des animaux. Les animaux sont les premiers à fuir à la guerre. Et chaque fois que tu as.
Et les cris.
Oui, le bruit est important. Le bruit, c'est ça qui va te sauver la vie. Je veux dire, le bruit, les cris, il faut faire attention avec ça. Moi, dès que j'arrivais sur un endroit où il n'y avait pas de bruit du tout, là, je dis, on bouge plus. On attend. Mais la vision aussi, je me rappelle, tu parles du Kosovo, j'étais avec un type qui est paparazzi, El Fassi, je ne sais pas si tu entends. Avec qui a fait de la guerre? Avec un mec super. Hein. Bon, alors, dès qu'il est comme ci, comme ça, moi, j'ai bossé avec lui. Donc, c'est un mec que j'aime bien. Et on arrive à un moment donné. Et il y a une espèce de no man's land entre les Kosovars, enfin les Albanais et les Serbes. Et là, il me dit, viens, on y va avec sa caméra. Et là, je lui dis, attends deux minutes. Moi, je suis un mec qui suis très prudent. Hein, il ne m'est jamais rien arrivé. Pourquoi ? Parce que je prends beaucoup de précautions. C'est-à-dire, je fonce pas comme ça. Bon. Et je regarde dans mon télé et je lui dis, Jean-Claude, t'as vu là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il regarde dans sa caméra, il dit, ouais, il y a des animaux morts par terre. Je lui dis, regarde ce que c'est. Il regarde, il dit, c'est des moutons. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu crois ? Il me dit, j'en sais rien. Dit, tu sais combien ça pèse, un mouton, Jean-Claude ? 30-40 kilos ? Je lui dis, combien tu pèses, toi ? Il me fait 70. Je lui dis, voilà, quand tu vas sauter sur la mine, ça fait deux moutons. Et là, pour lui expliquer que c'était complètement miné. Donc, il y a ça. Et la guerre, c'est ça. La guerre, c'est le son aussi, pour les bombardements. Tu comptes 311, 312, 313. C'est-à-dire, à chaque fois, plus t'es proche de l'impact, plus ça dure. Moins ça dure, c'est-à-dire quand tu comptes 311, et là, t'es sûr que t'es mort, quand t'as le truc au milieu. Et ça, pendant les bombardements, j'ai toujours fait, t'attends le bruit, le départ du canon, et après, tu comptes, de manière militaire, 311, 312, etc. Si ça met 20 secondes, tu sais qui tire, tu sais pas où. Plus ça se rapproche, plus les trucs, et là, tu sais que tu vas cartonner, là, tu te planques, tu fais autre chose, tu grattes la terre, tu disparais. Et c'est vrai que le son est important. À la guerre, c'est le plus important, le son. Parce que tu vois rien, de toute manière. Il faut savoir un truc, c'est que tu vois jamais rien. Moi, je me suis retrouvé deux fois sous des bombardements. J'ai tout de suite compris. Pop, t'as rien, t'as de la fumée, t'as de la poussière, tu fais pas de photos. Hein, donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu essayes de trouver toujours un endroit où tu peux photographier le bombardement. Mais après, tu dois compter en permanence des départs de but, les arrivées. Enfin, tu connais ça, quoi. Je veux dire, c'est...
Oui, il y a ça de surprenant. Moi, je me souviens, par exemple, à Beyrouth. De bombardements par slaves, 11 tirs, ou etc., etc. Mais que le premier qui faisait, par exemple, à Beyrouth Ouest, sur Amra ou autre, t'avais un pélo qui tombait, t'avais quelqu'un qui pouvait être blessé ou mort, mais avant même que le deuxième tombe, il n'y avait déjà plus personne dans les rues. Une rapidité de se planquer partout, phénoménale, exceptionnelle.
Oui, t'as des choses comme ça, et puis t'as des signes. J'étais avec Roland Neveu à Beyrouth en 82, justement, pendant les bombardements, et un peu en haut d'Amra. Et à un moment donné, il y a un hôtel, c'était l'hôtel Astor, je ne me rappelle plus, il avait un nom comme ça, qui avait été bombardé. Et on va voir, hein, parce que tu sais, tu vas à Aftermath, quoi, tu vas voir sur les lieux de bombardement après pour s'il y a des... Et à un moment donné, je vois un éclat par terre qui brille comme ça. Et là, je dis à Roland, viens, on part en courant. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, viens, suis-moi. Et 40 secondes après, le truc était pilonné, etc. Bon, il y a des intuitions, des choses comme ça, etc., qui font que moi, je fais le principe de Pascal, hein, Dieu existe, parce que s'il n'existait pas, je préférerais dire qu'il existe comme ça. Et donc, il y a des choses comme ça qui font que tu dois être à l'écoute et au regard en permanence. Hein, je veux dire, ta sauvegarde, c'est le son, et puis aussi et la vision de ce qui t'entoure. Hein. Il faut être très aware, hein, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Hein. C'est le principe.
Ouais. Et tu fermes cette époque de photojournalisme et d'agence en devenant en 1988 photographe indépendant.
Oui, parce que ce que je voulais faire, SIPA pouvait plus le faire. Je voulais faire des grands magazines. Et ça ne les intéressait pas. Ils voulaient que je continue à faire du news. Et moi, je ne pouvais pas. Bon, en 88, je commence à avoir pas mal d'enfants. Et puis, je suis fatigué. Je te dis, moi,
Oui, puis tu as un pied dans l'autorat, tu as un pied dans le photojournalisme. Tu es un peu dans tous les horizons. C'est un peu compliqué.
Puis j'avais envie de faire des bouquins. J'avais envie de faire des histoires un peu longues. Et puis, Et puis ce côté hôtesse de l'air là des agences, et tu vas à un endroit, tu reviens, tu fais les photos, tu fais autre chose. Enfin, le système Caron, qui est un système qui a perduré parce qu'ils ont tous fait du Caron, ils ont tous voulu être Caron, mais il y a un Caron. Et Caron, il est révélateur d'une époque. Tu vois, c'est un peu le gyrophare des agences françaises. C'est lui qui faisait à la fois Johnny Hallyday le matin et la guerre du qui pour le soir. Bon, mais alors ils ont tous voulu faire des Caron, mais Caron avait du génie. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est fait. Je veux dire, tu peux pas.
Et puis il est resté.
Il y est resté. Mais tu peux pas imiter quelqu'un. Je veux dire, c'est pas possible. Une fois que c'était fait, à quoi ça sert de passer par dessus? Il existe. Et puis respect, quoi. Tout est bien. Et dans toutes ces agences, ils voulaient faire du Caron. Et on leur vendait ça, mais c'est les patrons d'agence qui leur vendaient ça, ça les arrangeait bien. Hein, comme Cochin, chaque fois qu'il voulait m'envoyer sur un truc, il dit « Malva, c'est historique, tu devrais aller, c'est historique ». Et j'en ai fait des trucs, je peux t'assurer qu'en 8 ans, il n'y a pas une journée où je me suis reposé. Hein. J'en ai des boîtes pleines. Et donc ils ont toujours une carotte. Et la carotte de certains, c'est « tu vas devenir grand comme Caron ». Tu vois, alors ce soir tu fais, Avakian, et après tu vas au Conseil des ministres. Ils ont fait ça, et maintenant ils n'ont plus rien, quoi.
Il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les années 80, un photojournaliste pouvait bien vivre, avoir la belle voiture, le bel appartement, et qu'aujourd'hui, quand ils vendent de photos, il est content.
Ah oui, à l'époque, on gagnait des fortunes. Moi, j'ai gagné avec les Américains, j'ai gagné beaucoup d'argent. Hein.
Alors qu'aujourd'hui, c'est extrêmement dur.
Oui, parce que... Mais ça a été dur. Tu sais, si tu prends par exemple, je te prends le 19e siècle, 1850-1860, il y a 40 000 peintres à Paris. 50 ans après, il y a 40 000 photographes. Il n'y a plus de peintres, enfin, très peu. Dire les choses, elles changent, elles évoluent. Hein. Ça va vite. Hein. En plus, ça va encore plus vite. Hein. Aujourd'hui, il y a, je sais plus le principe de comment il s'appelle en ordinateur, c'est que ça double à chaque fois. Là, moi, j'ai mes enfants, ils sont dans le Cinoche. Hein. Il y en a un qui est dans la télé, qui est producteur sur la 2. Je lui dis, là, il gagne une fortune, hein, il achète des appartements, etc. Et je lui dis, mais tu sais, ça va durer 10 ans. Hein. Après, les télés, ça va être sur Internet. Toi, ta boîte de prod, elle va péter. Profite et pense déjà à autre chose. Il me dit, ouais, je vais acheter des restaurants. Ça, c'est bon. Là, c'est pas le bon moment, mais ça reviendra.
Oui, puis la photo est dévoyée, puisque si on parle de télé, la télé elle-même, même maintenant, les chaînes d'infos continuent, par exemple, te disent « Envoyez-nous vos photos, vos machins, vous êtes sur un lieu, un événement, envoyez la photo ».
Absolument.
C'est-à-dire que c'est tout le monde qui est reporter aujourd'hui.
Oui, mais en revanche, et là, il y a un boulevard pour les histoires.
Ouais.
Parce qu'ils font plus d'histoires en photo. Avec Instagram, ils sont tous... Alors, je le vois, même les pros, ils mettent des photos sur Instagram, qui sont formidables. On pouvait pas, on n'avait pas les moyens techniques de faire des trucs. Mais, tu vois, là, je regardais, là je vais faire je sors un truc sur l'Ouganda. J'ai fait en 86. J'ai des couchers de soleil, des trucs dans la jungle, parce que j'ai fait la guerre civile. Mais même ça, tu peux pas le faire en numérique. Mmh. Parce que t'as, le truc de l'argentique, tu avais un truc complètement magique. Qui est quelque part, qui correspond à notre sensibilité picturale. Alors que le numérique, comme il n'y a pas de chambre noire, parce que c'est ça l'histoire, c'est que, bon, moi j'ai fait des études de maths, hein, donc enfin, j'ai plus ou moins, disons, une formation scientifique, et le principe de la chambre noire, qui date du XIIe siècle, et qui a perduré avec la peinture hollandaise, etc., c'est une vision du monde. Et le numérique, c'est une autre vision du monde, où il n'y a pas de chambre noire, donc tu es à plat. Et le numérique, c'est des jeux vidéo. Et quand tu regardes les sujets photos des mecs, c'est des jeux vidéo. On se croirait dans un univers de jeux vidéo. Et tu n'y crois pas. Tu regardes les photos de guerre aujourd'hui, tu n'y crois pas. En plus, ils ont appris alors à désaturer à mort pour faire des gueules de cadavres. Donc, tu as l'impression d'être dans Warcraft 4 ou tu vois, un machin comme ça. Alors que moi, quand je regarde mes vieilles photos, je pourrais te montrer, bon, ça fait vintage, mais tu y crois plus, quoi. Tu vois, il y a un côté, il y a du relief, il y a du volume, les personnages, je sais pas, il y a du grain, il y a tout ça, il y a tout ce côté nostalgique qui est lié à la grande photo, aux grandes guerres, choses comme ça, qui fait que tu accroches plus, tu y crois plus. Il y a plus d'émotions qui sortent dans la photo argentique aujourd'hui. Il y a une espèce de force qui sort. Et même, je te montrerai une photo argentique tirée, et puis sur l'écran, là, ça, c'est pas la même chose, quoi. À l'argentique, t'as quelque chose qui est de l'ordre de la peinture. Si je te prends... Tiens, là, ça, c'est le WordPress 84.
Voilà.
C'est pas parfait. C'est pas vraiment piqué, etc. Mais t'as des couleurs, t'as des trucs que tu peux pas avoir. Tu peux pas avoir ça. Et encore, c'est pas le meilleur tirage. Le meilleur, il est là-haut. Ça, c'était du faux en si bas. Donc, si tu veux, t'as quelque chose de très particulier, quoi.
quatrième et dernière partie à suivre.